Bonjour à tous et bienvenue à Champ contre Champ, rendez-vous mensuel avec le cinéma proposé par l'association Profil sur l'antenne de Fréquence Protestante. Émission présentée par moi-même, Jean Lot, et qui sera animée par Jacques Champeau. Bonjour Jacques.
Bonjour.
Françoise Lot, bonjour Françoise.
Bonjour.
Et Jean-Michel Duquerre, bonjour Jean-Michel.
Bonjour Jean.
Oui, pour commencer en donnant mon impression générale sur ce mois d'octobre cinématographique, c'est que j'ai l'impression qu'à part quelques poids lourds dont nous allons parler, il a dans l'ensemble été assez terne. À tel point qu'un grand quotidien national a bien titré l'année, le mois des navets. Mais enfin, ne vous inquiétez pas, on va quand même pas vous parler de Diana. On a quand même trouvé quelques films remarquables, à commencer par La Palme d'Or 2013, La vie d'Adèle, d'Abdelatif Kechiche, et en continuant avec Blue Jasmine de Woody Allen, et en terminant avec I Won et les Hommes du coréen Hong Sang-soo, et avec bien sûr les quelques coups de cœur habituels. Comme quoi, même en ce mois sans vraiment de substance, on peut se trouver du beurre qui ne soit pas trop allégé. Commençons par La vie d'Adèle, d'Abdelatif Kechiche. Palme d'or à Cannes qui a fait la quasi-unanimité de la critique, on l'a dit et redit. Film limite en raison de sa durée, et film choquant à cause de la longueur et du réalisme des scènes d'amour entre deux femmes, on l'a également dit et redit, et trop dit. Mais entre ce qu'on a dit et redit, aussi bien que sur ce film que sur la regrettable polémique qui a opposé son réalisateur aux actrices, on arrive à la curieuse impression que tout le monde a vu La vie d'Adèle avant de l'avoir vue, et qu'on ne va le voir que pour se confronter à l'idée que l'on s'en était faite. Alors j'ai envie de dire stop à ce bruit de casserole qui parasite ce film, qui pour moi, et je ne sais pas si tu partages mon avis Jean-Michel, est d'abord le récit d'une passion et la narration d'une magnifique histoire d'amour.
Oui, c'est effectivement un film tout à fait extraordinaire. Abdelatif Kechiche est né en 1960 en Tunisie et vit en France depuis l'âge de 5 ans. On connaît les films qui ont précédé celui-ci, presque tous couverts de prix. La faute à Voltaire en 2001, L'esquive en 2004, La graine de Mulet en 2007 et Vénus noire en 2009. Ce film est inspiré librement de la bande dessinée Le bleu est une couleur chaude de Julie Marot, dont il partageait initialement le titre. Ce cinquième long métrage s'est vu décerner, comme en 2012 ça avait été le cas pour Michael Haneke et ses deux comédiens, Jean-Louis Trintignant et Emmanuel Riva, pour le film Amour, une palme d'or de nouveau attribuée de façon exceptionnelle à trois personnes. Le réalisateur lui-même, ses deux actrices principales qui sont extraordinaires et généreuses, Léa Seydoux est peut-être encore plus extraordinaire et une véritable révélation, Adèle Exarchopoulos. Âgée de 15 ans, Adèle, jeune lycéenne d'un milieu modeste, est convaincue qu'une fille doit rencontrer des garçons, mais elle pense du reste avoir trouvé l'amour en la personne de Thomas. C'était trop simple. Elle rencontre le même jour Emma, une jeune femme aux cheveux bleus, étudiante aux Beaux-Arts. Et cette rencontre bouleverse totalement sa vie dès les premiers regards échangés, ce que nous montre bien le réalisateur. Emma hante chaque nuit ses rêves et ses désirs les plus intimes. Adèle tente d'ignorer ses sentiments et de se livrer à Thomas, mais elle réalise qu'elle a une attirance pour les filles. Et c'est avec Léa qu'Adèle découvre dans un premier temps le désir et s'affirme en tant que femme, subissant ensuite dans la souffrance la rupture qui ne manquera pas de se produire, tant sont différentes les deux filles, naïve et vulnérable Adèle qui a en face d'elle une Emma subtile, rouée, dominatrice, experte à tous les jeux de la séduction. Alors bien sûr, il y a une narration, mais dédiée à la belle jeunesse de France et à la révolution tunisienne, comme le proclame le réalisateur, le film de Kechiche est surtout un hymne à la liberté d'aimer qui pourrait bien devenir, me semble-t-il, un des étendards culturels du romantisme au XXIe siècle. La découverte du désir et de l'addiction à la passion amoureuse dont Adèle fait l'expérience, malgré la pression normative de l'environnement scolaire et familial, est admirablement imagée par une caméra qui, pendant la période explosive de leur passion, montre, comme on l'a rarement fait avec une telle évidence et une telle intensité, la force torrentielle de l'amour de ces deux jeunes filles que rien ne peut arrêter. Il y a là comme une expression cinématographique de l'amour fou des poètes, décliné dans les regards, les caresses, l'absolu d'une relation dont les autres sont totalement exclus.
Amour fou, oui, sans doute, mais quand même amour particulier, avec le risque d'entendre les gens s'exclamer en disant avec un peu d'agacement « Encore un film sur l'homosexualité ».
Bien sûr, et ce risque, il a été parfaitement manifeste auprès d'un certain nombre de personnes du public. Mais je voudrais dire que loin d'être un documentaire sur la sexualité lesbienne, peut-être qu'aurait souhaité la rédactrice de la bande dessinée, du reste, c'est un récit d'apprentissage Le déroulement romanesque d'une initiation sentimentale et sensuelle placée sous le signe de la liberté. Et on oublie vite l'inclination homosexuelle des personnages pour ne voir que ce tableau flamboyant de l'amour dans sa dimension universelle, aux antipodes d'un récit communautariste. D'une énivrante beauté, les scènes de sexe, justement, qui ne représentent en fait que quelques minutes d'un film de près de 3 heures, sont explicites, certes, et crues, mais convaincantes et émouvantes, et jamais vulgaires ni pornographiques.
Oui, Jean-Michel, je vois que depuis Cannes, tu as conservé, comme le disait une ancienne pub d'une grande marque de CD, l'émotion intacte. Ben, je dois dire que personnellement, j'ai pas été déçu. Enfin, ce film reste pour moi un très grand film, un très beau film. Mais je dois dire que mon plaisir s'est un petit peu émoussé à la seconde vision. C'est un peu comme si, à la deuxième vision, j'étais plus sensible au fil de la trame et que la trame apparaissait un petit peu trop. Par exemple, je pense à ces scènes du début, cette première rencontre entre Adèle et Emma, suivie de ce rêve préfigurant l'avenir. Je trouvais ça quand même un petit peu lourd, un petit peu facile. Et par ailleurs, pour parler un petit peu de l'aspect le plus intéressant du film, cet aspect presque documentaire où on pénètre avec une vérité extraordinaire du naturel dans la vie de ces deux femmes, à deuxième vision, j'ai trouvé que c'était un petit peu plat. Je dois dire que par moments, en voyant la morve couler au nez d'Adèle, j'avais envie de lui tendre un Kleenex en lui disant « mouche-toi ». Jacques, est-ce que tu es...
Moi, j'ai beaucoup aimé ce film. Enfin, c'est un film qui est magnifique. Le récit de cette passion est superbe. Il y a aussi une construction assez savante, pleine de symétrie entre les scènes du début de la fin. Et à l'intérieur, il y a beaucoup de symétrie. Moi, j'ai deux petites réserves qui rejoignent peut-être un tout petit peu les tiennes sur ce film. Bon, la première, c'est sa longueur et la longueur de toutes les scènes. Alors, c'est pas une tare en soi. Hein. Je crois que c'était ce que voulait faire Kechiche et c'était important pour le film. Mais on a quand même l'impression, à certains épisodes, qu'il est presque un peu trop didactique, qu'il veut vraiment être sûr qu'on a bien compris. Je pense en particulier à la scène du musée, là, dans la piscine de Roubaix. Bon, on veut bien nous montrer que Emma, elle est étudiante aux Beaux-Arts et puis qu'elles sont toutes les deux lesbiennes. Moi, j'ai trouvé ça un peu appuyé. Alors, la deuxième réserve que j'ai, c'est sur la scène de la rupture. J'ai vraiment eu l'impression que Kechiche, en fait, avait deux ruptures en tête qu'il menait en parallèle, c'est-à-dire à la fois le fait qu'Emma revenait à un ancien amour et donc finalement perdait un peu de son amour pour Adèle, et en même temps cette crise de jalousie vis-à-vis de l'amoureux ou de l'amant ou de je ne sais quoi que Adèle a à travers un collègue. Et du coup, j'ai trouvé que cette scène sonnait un peu faux, parce que si c'était une vraie crise de jalousie, ça ne correspondait pas à ce qu'on avait vu avant, et si c'en était une fausse, elle en faisait un petit peu trop. Bon, et ce léger malaise a été un peu aussi augmenté par, je dirais, l'effet de temporalité. J'ai eu l'impression que Kechiche ne arrivait pas complètement à nous faire prendre conscience de la longueur de la vie commune. C'est-à-dire qu'en fait, on a plutôt l'impression que ça dure quelques mois, et quand on regarde les indices précis temporels de la vie professionnelle d'Adèle, ben ça dure en fait 5 à 6 ans, cette vie commune. Et là, il y a quelque chose...
Oui, il y a une ellipse très importante,
et cette ellipse,
qui n'est marquée que par le changement de la couleur de la chevelure.
Voilà.
On passe du bleu au blond.
Exactement. Et là, il y a eu un petit couac pour moi. Quoi. Ouais. Voilà. Mais à part ça, c'est quand même un très beau film.
Ouais. François, tu as...
Bon, vous avez, je suis d'accord avec ce qui a été dit, à savoir que c'est en effet un hymne à la liberté d'amour, comme le dit Jean-Michel, que c'est jamais vulgaire ni porno. J'ai quand même été gênée par les scènes de spaghetti à la bolognaise, où la caméra se fixe sur la bouche ouverte, sur la langue, sur les spaghettis qui dégoulinent, et j'ai eu le sentiment que ces gens ne mangeaient pas mais s'en piffraient, et que peut-être dans la longueur des scènes d'amour, qui par ailleurs sont très belles, et c'est jamais en effet ni vulgaire ni porno, mais que cette longueur de scène d'amour me donnait l'impression qu'elle s'empiffrait plus qu'elle ne faisait l'amour. Il y avait quelque chose d'excessif, voulu bien sûr par Kechiche, mais j'ai été un peu gênée. Gênée aussi un peu par le côté souligné en tout cas la construction entre le cours sur la vie de Marianne, puis le cours sur l'esquive, et puis l'idée du coup de foudre, et puis de la prédestination de la rencontre amoureuse, et puis du rêve qui annonce une passion furieuse. J'ai trouvé que c'était un peu souligné. De même, la différence des classes sociales, spaghetti bolognaise, vin rouge d'un côté, huître, vin blanc de l'autre. Bon, des choses un peu soulignées par ailleurs. Bon, je pense aussi beaucoup de bien de ce film.
Oui, c'est vrai. C'est un film, je dirais, un petit peu sur la en exagérant presque sur la goinfrerie. C'est un film qui est sur la distance entre finalement la gourmandise et la voracité. Mm-hmm. C'est, je crois qu'on a rarement montré un côté aussi physique, aussi charnel de la passion, et ça ne laisse plus place au fantasme d'ailleurs.
Et c'est
bien ce que je le reprocherai un petit peu. De façon de... Et d'ailleurs, c'est ce que caractérise la bouche toujours ouverte d'Adèle, c'est quelqu'un qui a envie de bouffer.
Puis quelque chose qui m'a paru curieux également, c'est la façon de filmer ces longues scènes d'amour. J'ai eu le sentiment, mais je ne sais pas pourquoi, de me retrouver assise au bord du lit et que j'avais rien à faire là. C'est filmé de façon tellement proche que j'étais plus sur mon fauteuil de spectateur. Je me sens que j'étais assise au bord du lit.
Oui, mais parlons peut-être justement un peu de ces scènes d'amour. Jean-Michel, qu'est-ce que tu en as déjà rajouté quelque chose à ce que tu as dit tout à l'heure peut-être?
Non, je vous écoute avec intérêt. et vos réserves me font réfléchir, effectivement, mais ça n'ébranle absolument pas la fulgurance pour moi de ce film, tout en reconnaissant les limites que vous avez soulignées, effectivement. Mais c'est le désir de Kechiche d'épuiser une situation. Il nous l'a suffisamment montré dans ses films précédents, en particulier dans La Graine et le Mulet, où il va jusqu'au bout des scènes quotidiennes avec une, je n'ose pas employer le néologisme d'une charnalité, mais en tout cas d'une expression du désir qui est peut-être dans son excès et qui peut empêcher certains d'accéder à la au bonheur de voir ce film.
Non, mais quand je dis que c'est un film vorace, c'est pas une critique, c'est un constat, si tu veux.
Oui.
C'est un type d'amour qui est décrit comme
oui.
ça. C'est pas,
oui.
c'est pas du tout une critique.
Tout à fait. Tout à fait. Il y a une voracité indiscutable dans les scènes à la fois de alimentaire, effectivement, qu'on voit souvent chez Kechiche, et dans les scènes de sexe ici particulièrement développées. Oui, c'est tout à fait juste. Ouais. Je suis bien d'accord.
Jacques-François, une dernière remarque avant qu'on passe au film suivant?
Non, je pense que pour ma part, non. Je n'ai pas rien à ajouter.
Oui, mais je trouve simplement que pour moi, c'est vraiment pas un film de voyeur, parce que pour moi, le voyeur, c'est celui qui regarde à travers le trou de la serrure et qui voit. Tandis que là, on est tellement mêlé à la scène que on n'est pas voyeur, on est immergé.
C'est d'ailleurs ce que dit Kechiche. Hein. Il a dit, j'ai voulu que vous soyez, effectivement, comme le disait Françoise, assis
c'est
dans
l'impression
la
que
chambre,
oui.
Non pas derrière le trou de la serrure.
Assis au bord du lit, oui.
C'est entièrement réussi.
Juste peut-être pour dire aussi qu'on connaissait la qualité d'actrice de Léa Seydoux, elle ne se dément pas dans ce film. Je voudrais beaucoup insister sur cette véritable révélation que représente la performance d'Adèle Exarchopoulos, qui est là, dans sa nudité, dans sa vulnérabilité, une personnalité extrêmement émouvante et qui irradie le film.
Tout à fait.
C'est elle qui tient le devant. Oui.
Bien, bon, on passe à un film tout à fait différent maintenant, puisqu'il s'agit de Blue Jasmine de Woody Allen. Alors, Blue Jasmine partage au moins un point commun avec le film précédent, celui d'avoir fait la quasi-unanimité de la critique. Tout unis dans un soupir de soulagement émouvant, on a retrouvé Woody Allen enfin. Depuis Match Point, il avait disparu. Enfin, je m'inscris personnellement un peu en faux contre cette affirmation. Pour moi, Midnight in Paris en 2011 était un film tout à fait valable.
Absolument.
Ceci dit, il est vrai qu'avec Blue Jasmine, on retrouve le talent extraordinaire de Woody Allen pour dresser des portraits de femmes. Talent qui s'était manifesté entre autres dans Intérieur, ou dans Une autre femme, ou encore dans Anna, ses sœurs. Et c'est là un domaine dans lequel on a souvent comparé à Bergman, rien de moins.
Oui.
Et dans Alice également.
Oui.
On trouve également dans ce film le glissement dans un autre registre inhabituel. Le ton est changé, la tonalité devient plus sombre, plus grinçante. François, je pense que tu seras peut-être d'accord avec moi si je dis que Blue Jasmine n'est pas une comédie et que Jasmine est un personnage tragique.
Moi, j'ai été vraiment touchée par la beauté tragique du personnage de Jasmine. Mais alors, c'est vrai qu'au début, on croit que c'est une comédie. On rit de cette femme snob, elle est complètement flippée, elle parle tout le temps, elle fatigue tout le monde. Et puis, par une dramaturgie surprenante et terriblement efficace, la comédie ne fait plus rire. On bascule dans le sérieux, on est dans l'identification, dans l'empathie. Et le dernier plan nous bouleverse, enfin je pense, là, Jasmine ne fait plus rire du tout. J'ai beaucoup admiré, comme d'autres, l'interprétation éblouissante de Cate Blanchett, qui donne corps et âme à cette femme, une femme que la vie vient de détruire, une femme qui se fissure sous nos yeux. Et ça, malgré le déni farouche, à la fois exaspérant, stupide et bouleversant, dans lequel elle se noie. Et tout le monde le voit, sauf elle. Pour moi, ce film, c'est un peu le portrait, c'est le portrait pathétique d'une noyée.
Oui, mais comment tu interprètes ce déni ? Est-ce que pour toi, c'est de la lâcheté ou de l'inconscience ?
Bon, c'est à voir. C'est peut-être de la naïveté. Je ne sais pas exactement. Jasmine était une femme riche, choyée. Elle menait une vie princière dans son appartement new-yorkais, mariée à un milliardaire. En fait, c'est un escroc à la Madoff. Aujourd'hui, elle est ruinée. Elle débarque à San Francisco chez sa sœur, qu'elle n'a pas vue depuis des années. Mais bien que ruinée, elle a toujours son petit tailleur Chanel, son sac Hermès, ses bagages Vuitton. Et Ginger, elle, sa sœur, elle est caissière dans un supermarché. Elle vit très modestement dans un quartier pauvre de San Francisco. C'est une femme chaleureuse, généreuse, elle est prête à aider cette sœur. Mais ça sert à rien, c'est peine perdue parce que Jasmine ne veut ou ne peut rien entendre. Elle titube sous le poids de l'humiliation, elle a tout perdu. Elle a tout perdu et elle se perd dans le rêve que tout pourrait redevenir comme avant. Alors elle fabule, elle réinvente sa vie, elle gomme fébrilement tous les drames, toutes les erreurs du passé. Et tout ce qu'elle raconte maintenant, c'est parfaitement faux.
Alors c'est une menteuse pour toi.
Une menteuse, j'aime pas beaucoup ce mot et je dirais pas sûr, parce que cette femme ne cherche pas tant à tromper son interlocuteur, fût-il son nouvel amoureux, qu'à se persuader elle-même que tout va bien finir par s'arranger. Et moi, je la vois divaguer à ce moment-là en pleine mythomanie. D'ailleurs, plus personne ne l'écoute. Elle titube, elle est hébétée entre ses calmants, ses vodka martini. Elle parle toute seule à voix haute, l'air hagard. Et la dernière image est vraiment terrible. Seule, assise sur un banc, perdue, disloquée, noyée. Alors j'ajouterais, pour dire encore mon admiration pour le film, que non seulement le scénario est remarquable, mais aussi la construction du film. C'est de la haute couture. Woody Allen déroule ses histoires en parallèle sans jamais nous dérouter. Sa caméra fait des allers-retours continuels entre New York et San Francisco, entre Jasmine et sa sœur, entre hier et aujourd'hui. Et les fils s'entrelacent sous nos yeux, tissent les motifs compliqués, fragiles, qui sous-tendent la vie de cette femme, Jasmine, dont Woody Allen avait envie de nous parler.
Oui, enfin moi aussi j'ai bien aimé ce film. Ça m'a paru comme une sorte de course à l'abîme d'une voiture conduite par un chauffeur à la folie grandissante. Il y a là tout un passage progressif de la comédie à la tragédie que j'ai trouvé absolument remarquable. Le début d'ailleurs relève typiquement de la comédie, et même de la comédie Woody Allen, avec ce personnage qui dans un avion se raconte à une inconnue qui n'ouvre pas la bouche. Or là on est déjà dans le faux, dans le délire. Et Ce qui est intéressant de cette mise en scène, c'est que Woody Allen filme cette scène sur le faux, dans une cabine qui est visiblement fausse. Car visiblement, on est dans une transparence, on n'est pas dans le cours d'un vol. Et ce n'est que progressivement qu'on se rend compte que ce faux cache une réalité et que derrière la comédie, il y a une tragédie. Jacques,
Oui, alors moi j'ai beaucoup aimé ce Woody Allen. J'ai été un peu déçu par les derniers, y compris par celui qui se passait à Paris, que je trouvais quand même un petit peu trop artificiel.
Ah oui, à l'inverse de...
Non, mais il était intéressant, mais pour moi il était un peu artificiel. Là, on a vraiment un Woody Allen solide qui va au fond des choses. C'est un magnifique portrait de femme. Bon, l'actrice est extraordinaire. Moi, je pense en particulier à cette scène au restaurant où elle est face à ses deux neveux et où tout d'un coup elle change de visage en quelques secondes, elle oublie complètement qu'elle est face à eux, elle monologue toute seule, donc c'est vraiment du grand art. Alors, ce film, quand même, je pense, il peut surprendre les amateurs de Woody Allen, et peut-être qu'il y en a qui vont le rejeter parce que, vous l'avez bien dit, il démarre en comédie, mais il termine en tragédie. Et j'ai eu un peu l'impression que Woody Allen, finalement, prenait ce ton un peu plus lourd, ou passait sur un ton plus grave. Peut-être parce que, à cause de cette crise qui ébranle nos sociétés, et où finalement, d'ailleurs il le montre bien dans son film, il y a un fossé qui s'est creuse de plus en plus entre les très riches, qui en fait partie Jasmine.
C'est la première fois où il aborde un sujet aussi social.
Exactement, c'est la première fois qu'il aborde un sujet aussi social, et puis les autres, et les dégâts collectifs et individuels que cela cause. Alors, le personnage de Jasmine, il est à la fois très antipathique, et effectivement, on ne peut pas s'empêcher quand même d'être ému par elle. Mais ce qui m'a semblé aussi faire, c'est qu'il cassait le mythe américain de la volonté individuelle. Vous savez, ce mythe qui veut que quand on est tombé, quand on a fait faillite, quand on n'a plus rien, on rebondit, on repart et on reconstruit sa vie de zéro. Eh bien, Jasmine, là, ne sait pas du tout repartir. Elle ne sait que s'accrocher de manière pathétique à ses rêves, à son statut, et à son statut qui n'est pas par sa profession, c'est uniquement par ses tailleurs Chanel, quoi. C'est tout son statut. Et hors de son statut, elle n'existe plus. Et ça, j'ai eu l'impression que c'était quand même une évolution par rapport au thème de Woody Allen en général.
Oui, tout à fait. Jean-Michel.
Oui, je vais redire d'une façon un petit peu différente, mais je suis d'accord avec tout ce qui a été dit jusqu'à présent à propos d'une espèce de rupture qui n'en est pas vraiment une avec les films précédents, ce portrait de femme extraordinaire. Et la performance impressionnante de Kate Blanchett, mais qui d'ailleurs rappelle un petit peu, moi ça a été mon cas, le style volontariste dans d'autres films de Catherine Hepburn, pour l'évocation que ça peut faire. Et surtout, je voudrais ne pas rester seulement à cette protagoniste, parce qu'elle vient se réfugier chez sa sœur, qui est Sally Hawkins. Et je voudrais mettre en exergue un peu Sally Hawkins. C'était la merveilleuse héroïne Pénélope, je crois, de Happy Go Lucky dans le film de Mike Leigh. Et c'était une personnalité extrêmement brillante aussi et qui, là, ne dément pas la qualité de son jeu. Le film rappelle aussi, enfin la situation rappelle aussi la situation de Blanche Dubois dans Un tramway nommé Désir de Tennessee Williams, parce que c'est aussi cette femme qui va se réfugier chez sa sœur qui est affublée d'un macho assez extraordinaire.
On est quand même très très loin de...
C'est une situation nommée Désir. Oui, dans l'histoire.
On peut dire que grossièrement le squelette c'est un peu ça, mais on est quand même assez loin.
Alors, le montage sur lequel a insisté François me paraît extrêmement intéressant parce qu'il est très simple. On suit très bien l'action et c'est simplement une alternance de moments présents et de flashbacks à la vie antérieure qui est représentée par un certain nombre de scènes clés de sa vie révolue. Et l'intérêt ne faiblit pas tout au long du film, d'autant que le refus de son destin par l'héroïne est mis à l'épreuve une seconde fois lorsqu'elle rencontrera, on ne l'a pas encore dit, mais c'est important, un autre prince charmant dont elle va décevoir l'incroyable candeur, comme elle avait été flouée elle-même par le noir escroc qu'était son premier prince.
Oui, il y a un point là, enfin, qu'on aborde, c'est le fait que enfin, beaucoup de gens que j'ai rencontrés ont trouvé, en particulier dans nos rayons profil, ont rejeté Jasmine en tant que personnage odieux. Est-ce que vous partagez ce sentiment?
Moi, m'a beaucoup ému, moi, vraiment.
Je le partage un peu. C'est quand même quelqu'un qui était très égoïste, qui n'a pas aidé du tout sa sœur quand elle en avait besoin et quand elle en avait les moyens. C'est un personnage qui est complètement retourné sur elle et qui ne vit qu'effectivement dans de l'artificiel qui était sa vie intérieure. Alors qu'après, elle soit touchante, oui. Qu'elle soit émouvante, oui, parce qu'effectivement, on voit bien à la fin complètement, elle décroche.
Pitoyable.
Donc, elle nous émeut. Mais on peut pas dire qu'elle est sympathique, non.
Et un truc qui me paraît important, moi, c'est qu'on dit qu'elle a été adoptée.
Oui.
Peut-être que ça joue quelque chose. Ça joue un rôle parce que elle n'a pas toujours été dans ce conte de fées. Est-ce qu'elle n'est pas tombée dans un conte de fées en épousant ce milliardaire comme elle est naïve. Enfin, je la sens naïve.
Complètement. Et pour revenir à ce qui avait été dit au début sur comédie ou pas comédie, voilà, c'est une sombre comédie ou c'est une tragédie larmoyante. Et en fait, Woody Allen s'intéresse à l'égoïsme incurable des riches qui met en contraste avec la vie difficile des pauvres.
On va faire une pause musicale parce que je crois que le temps nous est un peu parti. Pause musicale. Nous allons reprendre avec le film coréen de Hong Sang-soo, Ewon et les hommes. Hong Sang-soo, alors voilà un homme qui tire encore plus vite que Woody Allen. Woody Allen fait en gros un film par an, avec le coréen, le rythme est pratiquement de 3 films tous les 2 ans. En 2012, c'était In Another Country, Ewon et les hommes vient de sortir, et Our Sunny a déjà reçu en août le Léopard d'argent à Locarno. Facile, disent ses détracteurs, Hong Sang-soo fait toujours le même film. Mettez ensemble un professeur d'université ou un réalisateur, une des étudiantes qui a été sa maîtresse, 2 ou 3 étudiants intéressés à la belle, faites évoluer tout ce petit monde dans les bars et les restaurants de Séoul, arrosez tout ça abondamment de soju, et vous aurez un film du maître. Peut-être, diront ces inconditionnels dont je suis. Mais le génie de Hong Sang-soo vient justement de son art à multiplier les variations, de sa façon de toujours créer du différent à partir de l'identique. Jacques, est-ce que pour toi, Ewon et les hommes entrent dans la grande famille des films Hong Sang-sooniens, ou en est-il un mouton noir ?
Ah, pour moi, il fait bien partie de la famille. C'est son 14e long métrage et c'est pour moi un de ses plus réussis. Alors, peut-être d'abord quelques mots quand même sur le cinéaste coréen Hong Sang-soo, parce qu'il est quand même moins connu que Woody Allen ou que Kechiche. On pourrait un peu le comparer à Eric Rohmer pour sa façon d'écrire des petits contes sur le thème de l'amour. Il est né en 60 et réalise son premier long métrage en 1996 et depuis il a réalisé à peu près un film par an, comme tu l'as dit. Bon, les derniers films sortis en France, dont vous vous souvenez peut-être, sont Ahaha, Oh Kiss Movie, In Another Country. Ce sont des films très légers qui se passent toujours dans le milieu du cinéma et ou des étudiants. Alors, quel est ici le sujet du film ? Comme le titre l'indique, il met en scène une jeune et jolie étudiante, Ewon, et ses relations avec différents hommes. Alors, on la voit écrire son journal. Elle commence sa narration au départ de sa mère, pour le Canada. Elle déambule toutes les deux dans différents lieux de Séoul, qui sont chargés de souvenirs aussi bien pour la mère que pour la fille. Elle revoit Sang-joon, un professeur avec lequel elle a eu une liaison. Ils dînent ensemble avec un groupe d'étudiants. Ils font une excursion dans un parc, mais ils vont se disputer, se séparer. Elle rencontrera un Coréen, professeur aux États-Unis, qui lui proposera de l'épouser. Elle reverra Sang-joon et continuera d'écrire son journal. Tout ça, ça fait pas beaucoup de choses. Et en fait, c'est quand on voit le film, c'est beaucoup, parce que toutes ces rencontres, ces déambulations sont l'occasion de parler, de rire, de pleurer, de se mettre en colère, et finalement de donner beaucoup à voir sur les hésitations des personnages, hésitations de l'héroïne, Ewon, qui cherche, elle, à faire quelque chose de sa vie, mais hésitation beaucoup plus lâche, beaucoup plus veule de son amant Sang-joon, qui lui veut tout et son contraire. Il veut être avec Ewon, mais il ne veut pas que cela se sache. Il veut la garder pour lui, mais rester en même temps avec sa femme et son enfant. Donc des hésitations un peu partout.
Oui, là, je suis d'accord avec toi. C'est bien une histoire à la Hong Sang-soo. Mais est-ce que tu as le sentiment que dans ce film, on retrouve son univers ?
Oui, alors on retrouve tout à fait son univers et aussi sa manière de raconter une histoire. D'abord le cadre, les quartiers de Séoul, l'université, les restaurants, les bars, les parcs. Et puis les personnages, comme tu l'as dit, des étudiants en cinéma, un réalisateur qui hésite entre le risque de la création artistique et le confort du professorat. On y voit des hommes hésitants, peu sûrs, puérils. Des jeunes filles un peu plus fortes, plus désireuses de choisir leur avenir, mais qui hésitent aussi. Des personnages qui s'inventent des hasards, qui passent du rire aux larmes ou à la colère en quelques secondes. Et puis on retrouve sa manière de filmer. Le principe de répétition d'abord, des retours sur les mêmes lieux, la bibliothèque, un parc, un fort, un café, des redites, comme ici ces mégots de cigarettes ou ces statues qui remplacent les panneaux de signalisation ou les parapluies d'Another Country. Et puis, on retrouve aussi le procédé du journal intime, qui permet de brouiller les calendriers et de passer de la réalité au rêve d'une façon tellement peu marquée que le spectateur s'y perd complètement, comme si le rêve, pour fond, était autant la vie que la réalité vécue.
Oui, on retrouve tout ça, d'accord. Mais il y a quand même un certain nombre de directions dans lesquelles le maître lance une nouvelle piste, et c'est celle-là qu'il va falloir voir.
Oui, alors évidemment, mais pour les amateurs, il y a de subtiles variations. D'abord, l'introduction de l'étranger, de l'ailleurs, qui était d'ailleurs déjà apparu dans In Another Country. Ici, il prend la forme du départ de la mère vers le Canada, de la rencontre aussi avec Jane Birkin, rencontre sans doute rêvée, et de celle avec le professeur américain, dont on ne sait plus très bien à la fin d'ailleurs s'il est rêvé ou si elle est réelle. Tout se passe, à mon avis, comme si Hong Sang-soo ne trouvait de possibilité d'échapper à l'étouffement de la vie coréenne qu'en partant ailleurs. Et puis, et c'est peut-être lié, il y a une évolution dans le ton. Le burlesque et l'humour n'ont pas disparu, loin de là, mais le ton est peut-être un peu plus doux, un peu plus grave, avec un peu plus d'amertume, de pessimisme peut-être.
Oui, c'est peut-être ça qui me fait que pour moi, ce film, j'ai trouvé un petit peu décevant par rapport au Sang Sou habituel. Je sais bien qu'il était prisonnier d'un certain système, il risquait d'être prisonnier d'un certain système, il fallait qu'il en sorte. Mais j'ai dit, j'aime pas beaucoup cette fille plus réaliste, plus dramatique et pour tout dire plus banale que d'habitude. Je pense à ce professeur qui sanglote sur un banc face à deux drapeaux très symboliques, beaucoup trop symboliques. Je pense à cet adagio de la 5e symphonie de Beethoven. Moi, je trouve que Beethoven ne convient pas à Sang Sou. Voilà.
Oui, Sang Sou, c'est plutôt une petite étude de Debussy ou de
voilà,
Chopin.
Tout à fait, exactement. Voilà. Jean-Michel, tu voulais réagir.
Oui, moi je suis plutôt du côté de l'analyse de Jacques parce que je pense que l'amour est une chose bien compliquée. Et que Aung San Suu nous en montre tous les replis avec cette alternance de rire et de larmes et de rêve et de réalité. C'est une histoire de rêve. Toute l'histoire est un rêve et c'est à la fin on comprend que tout est un rêve.
C'est bien une des ambiguïtés posées par le film. Est-ce que c'est un rêve ou est-ce que c'est de la réalité? À mon avis, dans ce moment-là, c'est Aung San Suu le plus pur.
On le sait oui, pas, on n'a pas
fin,
à le savoir.
À la fin, on comprend que c'est un rêve. Il le dit.
Tout n'est pas un rêve, mais on ne sait pas où est la frontière.
C'est ce qui fait le prix du film.
C'est ça.
Qui n'existe chez aucun autre. Et je pense que c'est ça sa personnalité.
Est-ce qu'en voyant le film 5 fois de suite, on saura.
Et de redire à chaque fois les redites dont a parlé Jacques et le labourage des mêmes sillons et des reprises me paraît la marque du réalisateur.
Absolument, absolument.
Et c'est ça que j'aime chez lui et qui me plonge dans une espèce de bonheur à chaque fois que je vois le film.
Exactement. C'est pour ça que je regrette un peu que dans certaines parties, ils prennent une voie plus traditionnelle, plus sentimentale, plus affective, plus psychologique, alors que c'est pas son truc.
Alors, il n'y a pas de scénario, et en plus, c'est ça qui peut irriter. Il tourne au feeling, au fur et à mesure que les acteurs jouent devant lui, il tourne ses scènes, et ça, c'est sans doute insupportable pour certains.
Oui. François, tu as...
Oui, j'ai été un peu déconcertée à la sortie du film. Je dis, ah bon. Et puis, le film a décanté, et maintenant, j'ai beaucoup de plaisir à y repenser. En fait, j'étais venue avec des idées préconçues en me disant, Aung San Suu, c'est un peu mozartien. Puis, plof, on a le deuxième mouvement de la symphonie de Beethoven, qui est quand même une marche funèbre. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a à faire une marche funèbre dans son film? Ensuite, les couleurs les films, pour moi, avaient des couleurs d'aquarelle. Et puis là, je me dis, elles se sont assombries. Il y a un moment, d'ailleurs, dans le film, on voit un très beau ciel. Et puis, tant qu'on est dans le brouillard.
Elles sont plus variées, surtout. Elles sont à la fois des moments très francs, mais au contraire,
ce plan de brouillard, je me dis, bon, mais c'est pas tellement que Sang Sou. D'habitude, il nous promène pas dans le brouillard. Et il y avait cette espèce de légèreté à la Mozart, qui est donc une fausse légèreté, qui fait place, il me semble, dans ce film, à du douloureux. Alors, j'ai été un peu surprise par les sanglots du professeur, qui m'ont paru inattendus. Mais bon, c'est un changement de tonalité qui m'a déconcerté. Puis je me dis, après tout, il a bien le droit de changer sans me prévenir. C'est quand même à nous d'aller voir ce qu'il fait.
Il n'a pas le droit de changer en étant moins bon.
Mais il n'est pas forcément moins bon. Mais il y a plein de mystères, ça c'est bien dans ce film. Et on ne saura jamais où est la frontière entre le rêve et la réalité. Ça c'est quand même du vrai Aung San Suu.
Oui, c'est à 90% du vrai Aung San Suu. Jacques,
Non, je voulais réagir aux sanglots, parce que pour moi, les sanglots ne m'ont pas paru très apitoyants, mais plutôt ridicules, en fait. Et là, on est dans la vienne du burlesque de Aung San Suu, et qui est très critique vis-à-vis de ces hommes qui sont mous, qui ne savent pas quoi faire. Oui. Donc moi, je l'ai plutôt vu comme ça, mais peut-être que
Vrai, c'est burlesque, et on a envie de rire, et on n'y croit pas vraiment, et on est un peu gêné derrière le banc.
Oui, enfin, effectivement, des tas de fois, on retrouve... il y a un moment que j'adore, on retrouve toute la stupidité de Aung San Suu, c'est avec ce jeune homme barbu qui fume une cigarette. Au début, on le voit apparaître, on croit qu'il va jouer un rôle, puis finalement, il disparaît pratiquement. On le retrouve simplement parce qu'il laisse tomber un mégot et que Awan marche dessus, et de nouveau, il disparaît. Et puis, on se retrouve devant la librairie d'où il sort, et on va sortir, non pas lui, mais un professeur, dont on s'attend à ce qu'il va jouer un rôle de Awan.
Mais le mégot est toujours là, lui.
Et le mégot est toujours là.
Et quand on y repense après, on ne sait pas si c'est le petit moustachu du début qui est un rêve, ou si c'est le femme américain.
Tout à fait.
Bon, ça, c'est du cinéma.
Et est-ce que la scène avec le vieil homme à la fin près du banc est une réalité ou un rêve, mais la philosophie de Aung San Suu.
Oui, ça c'est
faut s'occuper des choses importantes.
Ça c'est le vieux sage, c'est le huron qui apparaît dans chacun de ses films. C'est tantôt un général, tantôt un maître nageur. Là, il s'est un vieux touriste.
Oui, donc finalement, je crois que tout le monde a aimé ce film avec de petites réserves.
C'est du cinéma.
C'est du cinéma.
C'est du cinéma, oui.
Bien, il nous reste encore quelques temps pour parler de donner quelques plusieurs coups de cœur. D'abord, Jean-Michel, toi, tu voulais nous parler d'un documentaire assez étonnant sur un peintre iranien, Fifi Hurle de Joie.
Oui, très vite, mais je crois que c'est important. C'est un film qu'on a vu au Festival du Réel à Beaubourg au printemps dernier, puis au Festival de Varsovie la semaine dernière. Il faut se précipiter pour le voir avant qu'il ne disparaisse des écrans, parce que c'est un film très, très particulier. Il est dû à Mitra Farahani, qui est né à Téhéran en 1975. Fifi Hurle de Joie, la traduction d'un titre iranien que je ne donne pas, mais qui retrouve avec émerveillement et fascination cette réalisatrice. Elle retrouve, exilée à Rome depuis les années 60, un peintre mythique et pasolinien, véritablement pasolinien, Bahman Mohasses, né en 31 et disparu d'Iran depuis 1954. Le peintre, qui est surpris mais flatté de l'intérêt que lui porte la réalisatrice, devient rapidement sa complice. Et elle, on l'entend, on la voit pratiquement pas dans le film. Et tous deux, pour la création d'un film qui sera aussi pour le peintre une œuvre ultime, et que la cinéaste improvise chaque jour de tournage autour du talent, du désabusement, du cabotinage de ce peintre, aux yeux brillants de malice, éclatant à tout propos d'un rire satanique, et qui se sait charmeur auprès d'elle. En effet, après la relance de son intérêt pour la vie, lorsqu'elle favorise l'arrivée dans le film de commanditaires iraniens d'un nouveau tableau, ce qui nous est donné à voir, peut-être le chef-d'œuvre inconnu qui est évoqué à ce moment-là, la séduction réciproque arrive à son comble et culmine dans la séquence bouleversante de la mort du peintre qui scelle une inoubliable rencontre.
Oui, mais je crois que tu nous as donné très envie de te précipiter pour voir ce film. Si je comprends bien, il ne restera pas très longtemps à disposition.
Sans doute, oui.
Oui. François, toi aussi, tu as retenu un documentaire. Alors, oui. Sublime et bouleversant, l'image manquante.
L'image manquante de Ritipan, qui est un réalisateur cambodgien. Alors, pour faire un mauvais jeu de mots, l'image manquante va effectivement nous manquer, puisque ce film exceptionnel n'est pas sorti en salle. L'image manquante a été projetée au dernier festival de Cannes devant une salle pétrifiée, et puis diffusée le 9 octobre dernier par Arte. Le DVD, nous dit-on, sera en vente à partir du 19 novembre, faut s'en souvenir. Ritipan avait 11 ans quand les Khmers rouges se sont emparés du pouvoir en 75. 4 ans d'une dictature sauvage, 2 millions ou presque 2 millions de Cambodgiens assassinés, et l'enfant Ritipan voit ses parents emmenés par les Khmers rouges. Adulte, il n'a de cesse de fixer les images de l'enfer que son peuple a traversées. En 2002, c'est S21, la machine de mort Khmer Rouge. En 2010, c'est le maître des forges de l'enfer. Mais Ritipan n'avait jamais évoqué sa propre histoire, celle du jeune rescapé des camps de Pol Pot. Parce que, dit-il, les images lui manquent, elles ont disparu. Alors, il va les inventer. Il va filmer l'invisible et il l'appelle l'image manquante. Ritipan demande à un jeune sculpteur de lui fabriquer des petites figurines en argile. Et le film commence ainsi, avec de la terre et de l'eau, avec des mains vivantes, on fait un homme. Il place ses petits personnages sur une maquette du quartier de son enfance à Phnom Penh, dans sa maison, puis dans les champs, les rizières, les camps de travail. Il mêle alors à des images d'archives tout ce peuple de figurines colorées, son père, sa mère, son frère, avec sa guitare, ses amis, ses voisins. Et puis il dit « J'ai su que l'image manquante était là. J'étais troublé de voir la vie remonter ainsi de la terre » où reposent les morts. Si Ritipan a survécu à cette souffrance infinie, sans doute est-ce dû à la construction incessante de son œuvre cinématographique. Il faut voir ce film, c'est une véritable œuvre d'art, à la fois par la qualité des images et par sa force créatrice, parce que, sous nos yeux, l'art recrée la vie et immortalise ce que des hommes ont cru pouvoir détruire. C'est un film bouleversant, c'est un film à voir.
Oui, c'est vrai, c'est un film bouleversant, et précipitez-vous pour acheter le DVD quand il sortira.
19 novembre.
On va faire quelque chose de tout à fait différent, pour une fois une fiction, puisqu'on parle que documentaire jusqu'à présent. Jacques, Gabriel.
Oui, alors au risque de te décevoir, à mon avis, Gabriel est un film un peu entre le documentaire et la fiction. C'est une fiction, mais très proche du documentaire. Alors Gabriel, c'est le second long-métrage de la réalisatrice canadienne Louise Archambault, dont le premier film familial était sorti en 2005. Alors le film a eu un très gros succès au Québec, il a reçu le prix du public au Festival de Locarno et il a été sélectionné pour le représenter le Canada aux Oscars. Donc c'est un film simple, attachant, mais qui a eu un gros succès. Alors le sujet lui-même, il est très convenu. C'est les répétitions d'une chorale qui doit se produire avec un chanteur célèbre, ici Robert Charlebois, et parmi les choristes, deux jeunes qui tombent amoureux. Bon, tout ceci a été beaucoup vu. Sauf qu'ici, les chanteurs et les deux héros, Gabriel et Martin, sont des déficients intellectuels. Gabriel, qui crève l'écran, on a vu déjà 3 films sur des portraits de femmes, là on en a un 4e, elle est atteinte du syndrome de Williams. Donc elle a l'oreille absolue, elle chante avec passion, mais elle est handicapée, elle a une déficience mentale. Elle tombe amoureuse de Martin, qui lui rend bien. Ils expriment leur amour de manière maladroite, mais évidemment finissent par inquiéter leurs proches, et notamment la mère de Martin, et qui veut les séparer. Et donc Gabrielle va essayer de tout faire pour conquérir son indépendance et retrouver Martin. Alors, évidemment, quand on entend ça, on se dit « Oh là là, le mélo n'est pas loin ». Et effectivement, on aurait, un tel sujet aurait pu tourner au mélo. Mais il n'en est rien grâce au choix de la réalisatrice. Et notamment, elle a eu l'audace, elle a pris le risque de faire jouer le rôle de Gabrielle par une jeune femme qui est effectivement atteinte du syndrome de Williams. Elle est extraordinaire, elle illumine le film. Alors, c'est d'autant plus compliqué que la réalisatrice, initialement, voulait aussi que Martin soit joué par un déficient mental, ça n'a pas pu coller, donc lui est joué par un jeune acteur, et il faut que la mayonnaise prenne, et pour le spectateur, ça prend, quoi, hein. Ça fonctionne. Alors, le film, évidemment, nous interpelle, parce qu'il nous montre la joie de ces exclus à faire de la musique, mais il nous montre aussi les limites de leur indépendance, et puis les questions difficiles posées à leurs proches. L'amour donne des ailes, certes, mais leur faible autonomie crée quand même des obstacles presque infranchissables. Donc c'est un film sensible, pudique, qui évite tout à fait les travers du film à thèse, qui apporte un thème difficile, la sexualité chez les handicapés légers, tout en montrant chez eux une réelle joie de vivre. Et vraiment, l'émotion est très forte quand il chante à la fin avec Robert Charlebois « Je suis un gars bien ordinaire ». Ceux qui ne le sont pas.
Merci Jacques, je crois que ça nous donnait envie de voir ce film. Je voudrais profiter des quelques instants qui nous restent, quelques secondes qui nous restent pour signaler le nouveau film d'Isabelle Tchaïkha, La vie domestique, avec entre autres Emmanuel De Vos, tout à fait remarquable, dans cette histoire de femmes qui vivent dans une résidence de haut standing en banlieue et qui sont en quelque sorte prisonnières de leur mode de vie qui à beaucoup peut paraître doré. Mis à part le style, cela tient à la fois de Tchekhov et du désert des Tartares. Tchekhov parce qu'il s'agit de femmes enfermées dans des petites vies accablées sous les tâches quotidiennes et répétitives. Désert des Tartares parce que, en particulier pour la principale de ces femmes, Juliette, elles attendent le grand jour qui n'arrivera jamais. C'est un film assez désespéré sans doute, mais le désespoir n'est pas forcément une valeur négative. Pour citer Musset, les chants désespérés sont les chants les plus beaux. Bien, je crois qu'il est venu le temps de nous quitter. Merci à Françoise, à Jacques, à Michel qui ont animé cette émission. Merci à Arnaud qui en a assuré la rédaction technique. Et merci à tous ceux qui l'ont écouté et à qui nous disons à la prochaine fois. Chant contre chant est programmé tous les quatrièmes mardis du mois de 13h15 à 14h. Notre prochaine rencontre aura donc lieu le mardi 26 novembre et nous y parlerons comme d'habitude d'actualités cinématographiques du mois.